marche du monde. Valérie Nivelon.
La marche du monde vous présente Nos années Goulag, une série documentaire inédite coproduite par RFI et France Culture.
Dans cet énorme camp de travail, où il y avait 36 petits camps, il y avait 52 000 prisonniers. Nous étions à 900 km à l'est de Moscou, dans la zone la plus orientale de la forêt de Briansk. Il y avait des bouleaux de 600 ans. Rien à voir avec les petits bouleaux hongrois. Même à trois, on ne pouvait pas l'encercler avec nos bras.
Nasz lager był bardzo malinki. Zięcin około 1300 czytali tak.
Notre camp était très petit. Il y avait 1300 femmes. Mais ceux qui nous accompagnaient au travail, les gardiens, c'était des hommes. Ils portaient des mitraillettes.
Automatami.
Ils avaient des fusils.
Każdy jutro, kiedy nas wywodzili, czytali nam taką.
Tous les matins, quand on sortait, on nous donnait des consignes sur le comportement. Donc, ils nous disaient un pas à droite, un pas à gauche, et considéraient comme une tentative de fuite. Donc, on devait toujours marcher en colonne, 5 personnes par colonne. On n'avait pas le droit de s'écarter de ce chemin, sinon ça aurait été considéré comme tentative de fuite.
Survivre au camp, l'amour des hommes, la part de Dieu.
És a Szovjetunió mesteri módon tudta belég sugározni a bizonytalanságot.
L'Union soviétique a réussi à nous transmettre le sentiment que notre vie ne tenait qu'à un fil.
Mi soha nem tudtuk, hogy melyik pillanatban fognak tarkolni bennünket.
Nous ne savions jamais à quel moment ils allaient nous tirer dans la nuque.
Placide Lovson est hongrois, Mia Yogias est estonienne. Ils ont été arrêtés à leur domicile et déportés dans les camps du Goulag. C'est souvent à partir d'un décret, un simple ordre administratif, que leur vie a basculé. Les mots de la répression sont catégoriques. Il s'agit de nettoyer les territoires annexés des éléments anti-soviétiques, criminels et socialement dangereux. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, alors que le reste de l'Europe retrouve sa liberté, de nombreux pays d'Europe centrale et orientale ont continué à être le théâtre d'une violence extrême. Placide et Mia ont partagé ce destin commun, où il ne s'agissait plus de vivre, mais de survivre.
Je vais commencer par dire que j'ai 93 ans. Ça fait beaucoup, mais dans une semaine, je vais célébrer ma messe de rubis. Ça va faire 70 ans que je suis curé et bénédictin. Mon père était d'origine suédoise, comme mon nom Olofsson l'indique. Ma mère, par contre, est d'origine allemande, donc je n'ai même pas une goutte de sang hongrois dans mes veines. Mais que personne ne dise que je ne suis pas hongrois.
Placide Charles Lovson est prêtre. Il s'exprime dans sa langue, le hongrois. Il est accusé de conspiration anti-soviétique pour avoir participé à la campagne électorale de 1945 pour le parti des petits propriétaires.
Comment êtes-vous arrivé dans ce camp de travail? Dans m'y emmener. En janvier 1946. Quand on nous a emmenés, la température était de moins 46 degrés. Moi, j'avais des chaussures de ville quand on m'a arrêté et je n'avais pas pu les changer. Le fait est qu'elles ont plu à l'un de mes compagnons de détention soviétique et il les a volées. Donc j'étais pieds nus. Dans le wagon à bestiaux dans lequel on nous a transportés, j'avais trouvé des morceaux de bois et je les ai attachés à mes pieds. Mais quand nous avons dû attendre devant le camp de travail, nous étions appelés selon l'ordre alphabétique. Et moi, je m'appelle Olofsson. Et même dans l'alphabet russe, le O, c'est au milieu. Imaginez-vous, à moins 46 degrés, j'étais debout, pieds nus dans la neige. C'est la même sensation que si j'avais les pieds dans la braise. Mais je vous l'avoue franchement, je sanglotais comme un enfant. C'était une douleur atroce. En tout cas, jusqu'au moment où mon pied s'est endormi. Mais après, la douleur est revenue quand, dans le baraquement, mon pied est revenu à la vie. Je dois dire que je n'ai jamais été un grand sportif. Et donc, mon corps tombait en lambeaux, lentement. Je pesais 41 kilos. Et avec ce corps, je devais travailler avec une hache et une scie. Pour le poids d'un homme normal, ce n'est pas beaucoup. Mais le bon Dieu a parfois des idées tordues. Imaginez-vous, pendant toute une année, en 1952, je n'ai pas travaillé avec des haches et des scies, mais avec un pinceau. À cause d'un malentendu, je suis devenu peintre. Le commandant du camp m'avait demandé quelle était mon occupation. Et je dis à ce commandant que je peins des portraits en me disant qu'il n'en aurait pas besoin. Le malheureux, il en avait besoin. Et j'ai donc peint des portraits pendant un an. 39 portraits peints à l'huile. Bon, mon corps s'était un peu reconstruit. Je suis passé de mes 41 kilos à 65 kilos en un an de peinture. Travailler avec des pinceaux, c'est quand même autre chose. Quelques petites choses en plus. Quand je peignais quelque chose pour un soldat, c'est arrivé qu'il aille à la cuisine et dise « Donnez-lui un peu de soupe. » Parfois, je recevais même deux soupes aux choux. Et puis, quand on me commandait une peinture, on m'en a commandé depuis Moscou. C'était la commandatur qui recevait l'argent. Moi, je ne recevais rien du tout. Une fois, j'ai demandé au responsable de l'approvisionnement, « Apportez-moi dans votre poche un œuf. Ça fait 8 ans que j'en ai pas mangé. » Il m'a dit, « Mais chez nous, il n'y a pas de volaille. » L'économie soviétique est stupide. Dans les forêts de bouleaux pluricentenaires, le sol était tellement riche que la volaille aurait pu s'alimenter uniquement de la végétation. Oui, mais la norme de réquisition était de 57 œufs par poule. C'était tellement compliqué qu'ils préféraient cesser l'élevage de volailles. Je suis ignorant de ce point de vue-là parce que je suis budapestois, mais dans notre camp de travail, aux 1400 prisonniers, s'ajoutaient au moins 1000 personnes, entre les gardiens, les personnels et leurs familles. C'était tout un village, et il n'y avait que 6 cochons. Ceux qui étaient de la campagne se tenaient. Comment font-ils pour n'avoir que 6 cochons? 600 cochons, c'est un bon village. 60 cochons, c'est un village misérable. Mais 6 cochons, là aussi le niveau de réquisition était tel qu'ils ne voulaient tout simplement pas s'exposer à ne pas remplir les normes. Ils s'en occupaient donc pas. C'est une stupidité sans nom. L'Union soviétique, le pays le plus riche du monde, mais la stupidité du système est encore plus grande. Je vais vous dire autre chose. En 1953, j'avais comme co-détenu le directeur général de l'Office des statistiques de Moscou. C'est de lui que j'ai entendu dire qu'il existe 3 sortes de soviétiques. Ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison et ceux qui seront en prison. C'est le directeur de l'Office des statistiques de Moscou qui m'a dit ça. Et je lui ai demandé un jour, selon l'Office des statistiques, combien plein de prisonniers politiques sont dans le goulag soviétique. Moi, je savais qu'en URSS, on aime bien les gros chiffres. D'ailleurs, on ne pouvait pas acheter un kilo de pain au magasin, seulement 1000 grammes. Le kilo de pain, c'est pour les capitalistes. Pour eux, c'était 1000 grammes. D'ailleurs, pour nous, la norme journalière était de 400 grammes.
Szóval, és ezt mi úgy értékeltük ki, a kutyapályán.
Nom d'un chien, des 3 millions et demi de prisonniers. Il y en aura des centaines de milliers qui survivront. Je ne suis pas pire qu'eux. Moi aussi, je vais survivre. Donc, cette volonté de survivre, on se la transmettait l'un à l'autre. Nous prenions soin les uns des autres. Ça représentait beaucoup.
Только политическими, да. Это такое время было уже, потому что, по-моему, в 49-м году разделили этих криминальных и мужчин, и женщин тоже.
En 49, les hommes et les femmes, d'une part, et puis les politiques et les droits communs ont été séparés.
И мы весь день были с бригадой вместе на объекте и построили дорогу.
On a travaillé, on construisait le chemin de fer et puis on dégageait aussi les terrains de la neige. Là-bas, la plupart de femmes, c'était des jeunes filles lettonnes et lituaniennes. Et moi, j'ai fini même par comprendre un peu leur langue. Ils m'ont appris leurs chansons. Elles chantaient beaucoup pendant le travail. Il y avait aussi des Ukrainiennes, des filles très sympas, qui venaient de l'Ukraine occidentale, de la zone des Carpates. Parce que avant la guerre, cette région de Carpates faisait partie de la Roumanie. Et après, elle a été occupée. Et là-bas, il y avait très peu d'Estoniens. Il n'y avait qu'une vingtaine d'Estoniennes. Et il y avait même une femme, une épouse d'un ministre. Elle n'allait pas travailler. Je pense qu'elle savait bien parler et s'entendre avec l'administration, et donc elle ne travaillait pas. Et après, elle a travaillé comme vendeuse dans un petit magasin qui a été ouvert où on pouvait acheter des aliments.
Mia Yogias est estonienne. Elle fait l'effort de nous parler en russe. En octobre 1950, elle a distribué des tracts et brûlé le monument au libérateur de l'armée rouge dans sa ville à Tartu. Elle purge une peine de 10 ans de travaux forcés à Vorkuta, dans le camp pour prisonniers particulièrement dangereux de la République des commis.
Et потом, русских очень мало было. Русских было мало.
Il y avait très peu de Russes, moins qu'estoniennes.
Et
puis il y avait aussi des filles allemandes. Elles étaient très pauvres. Les pauvres, elles ont été arrêtées en été. Et donc, elles n'avaient rien, elles n'avaient pas de vêtements d'hiver. C'était des filles de Berlin de l'Ouest qui sont allées dans la zone Est pour y vendre des bas en soie. Donc c'était leur petit commerce. Ils ont été arrêtés et ils ont eu 20 ans de camp. Les pauvres filles bêtes, elles ne voulaient pas travailler pour un État qui n'était pas le leur. Et donc, elles restaient debout avec leurs instruments dans leurs mains. Mais comme ça, elles avaient très, très froid. Et nous, on travaillait, comme ça, on se réchauffait. Et puis, aucune chef d'équipe ne voulait de ces filles allemandes dans son équipe parce qu'elles ne travaillaient pas. Et puis, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Qu'est-ce qu'on mangeait, par exemple? Donc, on mangeait un tout petit peu le matin, et puis il n'y avait pas de déjeuner, évidemment. Donc, on gardait à chaque fois un morceau de pain. On le gardait sur notre corps, sous les vêtements. Et comme ça, ce morceau de pain restait chaud. Et alors, à la fin de la journée, quand on était fatigué, on mangeait ce pain. Et puis le soir, on avait aussi droit à un bol de soupe. C'était bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre?
Ah, мы просто как-то выходные были, все-таки у нас выходные каждое воскресенье почти.
On avait des jours fériés. On avait pratiquement tous les dimanches étaient fériés.
Нас так не обижали, как мы.
On n'était pas si maltraités. Parfois, on peut lire dans les livres qu'il n'y avait qu'un jour libre par mois. Нous, c'était quand même mieux. Parfois, on était obligé d'aller nettoyer le camp de la neige. Donc, quand on avait du temps libre, on allait chez d'autres filles dans des baraquements. Avant la mort de Staline, les baraques étaient fermées le soir après l'appel. Ils fermaient le baraque le soir. Et ils ouvraient le matin et on était 80 ou 90 personnes dans le baraque, donc deux équipes. Il faisait chaud, c'était bien chez nous, il faisait chaud, c'était propre. On laissait une personne pour s'en occuper pendant que les autres étaient au travail. Vous chantiez des chansons? Oui, les filles ukrainiennes chantaient.
Ah,
il y avait même eu un concert. C'était à l'occasion de la fête du 1er mai. Donc il y avait un programme. Chaque nation pouvait montrer ce qu'elle savait faire. Alors, on s'est demandé avec des copines, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on a préparé des danses populaires. Et Rita, notre copine, comme elle travaillait comme dessinatrice, et donc elle nous a aidé à faire des costumes folkloriques. Et donc, nous avons dansé et on a eu beaucoup de succès. Vous savez, on était très jeunes, on était plus jeunes que toutes les autres. Nous avons été arrêtés au moment où les autres étaient déjà en prison depuis peut-être 10 ans.
Retrouvez les voix de Mia Yogias, Placide Lovson et aussi Antanas Seikalis. Ils nous racontent leur survie au goulag, juste après les infos sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite du second épisode de notre série documentaire Nos années Goulag, coproduite par RFI et France Culture.
Я был в лагерях, где не ругались. Я был в лагерях, где можешь потерять.
Dans les camps où j'étais, il n'y avait pas de friction entre les différentes ethnies.
3-4 килограмма золота.
Dans les camps où j'étais,
никто тебе не будет. Это тебе найдут и отдадут.
On pouvait laisser quelque part 3 ou 4 kilos d'or pur et on vous les apportait une demi-heure plus tard pour vous les rendre.
В лагерях были специалисты.
Dans les camps, il y avait des experts qualifiés en tout domaine. Il y avait des médecins, il y avait des musiciens. Parmi les Russes, il y avait des diplomates, il y avait des militaires. Parmi les Ukrainiens, il y avait surtout des paysans. C'étaient les Ukrainiens de l'Ouest. Ils étaient costauds.
Survivre au camp, l'amour des hommes, la part de Dieu.
Но мне пришлось по лагерям покататься достаточно много.
Quant à moi, j'ai été transféré d'un camp à un autre. De cette prison de Krasnaya-Preznia, j'ai été amené dans un camp à Mordavie, à Potma.
Очень много молодежи.
Il y avait énormément de jeunes
из Прибалтики.
En provenance des pays baltes.
Были поляки, были разные, но все в опять страны.
De tous les pays.
Даже нас шутили. Если в ГУЛАГе нет какой-нибудь национальности, не представлена национальность, значит такой национальности вообще в мире нету.
D'ailleurs, on disait nous que
вот так шутили.
Si au ГУЛАГ on ne trouve pas le représentant de telle ou telle nationalité, c'est que cette nationalité n'existe pas.
Я только чернокожего человека не видел.
Moi, je n'ai jamais vu de noir, mais c'est à peu près tout.
Antanas Sekalis est lituanien. En 1950, à l'âge de 17 ans, il est dénoncé et arrêté avec son frère. À la suite d'interrogatoires musclés, Antanas est condamné à 10 ans de travaux forcés. Il les purge dans différents camps du Goulag et se retrouve au Steplag, dans les camps de travail du Kazakhstan.
Question. Vous avez été dans beaucoup de camps, dans beaucoup de régions. Est-ce que vous pouvez nous parler de la composition ethnique de détenus? Et est-ce que vous aviez des amis parmi les non-lituaniens, disons?
Il nous répond en russe.
Et других национальностей.
Il y avait beaucoup de jeunes.
Меньше было, чем нас. Самый больший контингент. Украинцы были.
Il y avait surtout des Ukrainiens. Потом, ils étaient les plus nombreux.
Русские иногда.
Ensuite les Russes.
И второе место занимали иногда.
Parfois c'était des Lituaniens qui étaient en deuxième place. Parfois des Lituaniens. Ensuite des Biélorusses.
Français.
Ensuite des anciens prisonniers de guerre. Ensuite des Français.
Которые почти все погибли.
Qui sont pratiquement tous morts.
Немцы еще были.
Il y avait quelques Allemands aussi. Il y avait des Japonais aussi, des prisonniers de guerre. Il y avait des Indiens, il y avait des Américains, il y avait des Turcs, il y avait des Anglais. Je ne peux pas vous donner toute la liste, d'ailleurs je l'ai marqué quelque part. Il y avait des Juifs, bien entendu, beaucoup. Des Juifs, il y en avait beaucoup. Il y en avait qui étaient très très connus. De très bons experts, très qualifiés.
Vous nous avez parlé de ces différentes nationalités, des Lettones, des Ukrainiennes. Alors, votre langue commune, c'était le russe?
Da.
Oui. Alors, quelles étaient vos relations?
Sperva, они étaient русские и не русские.
Tout d'abord, les Russes et les non-Russes, les Ukrainiennes, nous ont regardés avec de la méfiance. Parce qu'elle se disait, mais est-ce que vous allez parler entre vous, dans votre langue, On ne vous comprend pas, alors parlez russe. Et nous, on répondait, non, on a besoin de parler notre langue. Et on était tellement bien avec Hélène, on était toujours dans la même équipe. Et alors, quand on ne voulait pas qu'on nous comprenne, on se parlait entre nous en estonien. Et puis, il y avait aussi des filles polonaises. Elles étaient très sympas aussi. On avait des très bons rapports avec elles. Une était particulièrement intéressante. Elle avait une très, très bonne mémoire. Elle me racontait, on travaillait ensemble, et pendant tout ce temps-là, elle racontait par cœur tous les romans de Sienkiewicz. C'était très intéressant. Il y avait une qui venait de l'Afghanistan, une jeune femme. Elle portait un tchador. Elle le portait tout le temps. Au début, ce tchador était blanc et après, elle est devenue gris. Elle ne voulait pas regarder les hommes, elle se cachait. Et on ne pouvait pas la faire travailler, elle ne savait rien faire. Et elle est restée avec nous pendant un an, et puis elle est tombée malade, elle a eu la tuberculose, elle a été envoyée après ailleurs. Mais on a compris comment elle s'était trouvée à Vorkuta. Elle habitait vivait dans une grande famille en Afghanistan, à côté de la frontière soviétique. Et ils avaient un grand troupeau de bétail. Elle gardait ce troupeau. Et comme la frontière n'était pas marquée, elle s'est retrouvée sur le territoire soviétique. Et tout de suite, elle a été arrêtée, elle a été attrapée par les gardes frontières. Et elle a été condamnée à 25 ans comme espionne.
Она все время плакала, она не поняла, что с ней.
Elle était analphabète, elle ne comprenait rien, elle pleurait tout le temps, elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle est morte?
Il fut un temps dans les camps où les politiques étaient séparés des droits communs. L'administration des camps voulait imposer sa volonté par la terreur, surtout obliger les prisonniers à travailler. Et pour cela, ils utilisaient l'arme la plus redoutable, la nourriture. Ceux qui respectaient les normes de travail avaient droit à un repas. Ceux qui ne le faisaient pas avaient juste droit à un bout de pain. En fait, c'est très facile pour faire travailler les détenus. On n'a pas besoin d'énormément de policiers pour cela. Les chefs d'équipe étaient des anciens détenus du droit commun. Il y a quelques droits communs qui sont restés parmi nous, ils étaient tellement dangereux qu'on ne pouvait plus les relâcher. Dehors, ils étaient considérés un tout petit peu comme des politiques. Par exemple, il y avait celui qui dispatchait les travaux. Le système était très astucieux. Le camp, c'était nous. On était des esclaves. Nous étions tous gardés par des gardes armés. Et on nous revendait à d'autres organismes pour construire une route, pour construire une usine, pour abattre les arbres, pour travailler dans les mines. L'administration des camps nous vendait touchait de l'argent, et nous, on payait tous nos frais, parce que c'est nous qui entretenions les gardes. Il fallait qu'on paye pour tout. Et l'administration des camps vivait vraiment comme des grands seigneurs, les membres de l'administration. Ils avaient tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut désirer. Et en plus, ils avaient tout le pouvoir.
Ils
voulaient absolument me faire travailler dans une usine de confection, puis une autre usine qui fabriquait des pièces de radio. Mais moi, j'ai refusé de travailler. J'ai été mis en cachot plusieurs fois, et puis après j'ai été transféré dans la région d'Altaï, qui était très dure, et où on construisait la ville de Междуреченск.
Сейчас первые забастовки в Советском Союзе начались в Междуреченске.
Et c'est là qu'il y a eu les premières grèves de mineurs en Union soviétique. D'ailleurs, c'est très beau par là. Et maintenant, je vais vous raconter comment nous avons défini les quatre règles essentielles à la survie. C'est ce que je raconte toujours en ce moment. Parce que nous, les Hongrois, nous devons survivre à tout. Nous avons survécu aux Tatars, nous avons survécu aux Turcs, aux Habsbourg, à Hitler, à Staline.
Après son arrestation à Budapest, le père Lofson a été transféré au camp de Briansk, à 350 km au sud-ouest de Moscou. Il a été condamné à une peine de 10 ans. Placide Lofson a tout juste 30 ans.
Donc, la première règle de la survie. On ne doit pas dramatiser la souffrance, parce que ça affaiblit. Or, pour supporter la souffrance, nous avons besoin de toute notre énergie. Concrètement, nous y parvenions en ne laissant aucun de nos compagnons se plaindre. Quand quelqu'un râlait ou exprimait un mécontentement ou une tristesse, parle-nous de ton métier. Tout le monde sait parler de son métier. Pendant ces 10 ans, j'ai découvert tant de professions. Élevage de dindes, apiculture, mine, reliure de livres et autres. Mais on ne permettait pas la plainte. Bon, la deuxième règle. On doit percevoir les petits plaisirs de la vie. La souffrance, ça vient tout seul. Il ne faut pas la chercher. Les petites joies, par contre, il faut les chercher, les percevoir et les savourer. C'est ça l'art de vivre. On m'a rétorqué en me demandant quel petit plaisir pouvait-il y avoir dans un camp de travail forcé. Je vais prendre un exemple. C'était le défrichage, et à moins de moins 20 degrés, on ne nous emmenait pas travailler dans la forêt. C'était l'année des Jeux Olympiques à Helsinki. Et là aussi, nous avions un premier tour, un deuxième tour, la finale et le champion olympique. Nous, si le matin, en allant à la forêt, nous cherchions les petits plaisirs. Et le soir, après avoir mangé la soupe au chou, celui qui pouvait en raconter le plus gagnait le premier tour. Au deuxième tour, il y avait les gagnants du premier tour et puis le champion olympique que nous fêtions. Bien sûr, nous n'avons rien. Mais vous savez comment on faisait? On lui demandait quelle était sa chanson préférée. Et nous la lui chantions. Il faut être imaginatif dans cette misère, lorsqu'on n'a rien. Nous avons eu une fois un champion olympique qui avait réussi à énumérer 16 petits plaisirs. La troisième, maintenant. Elle est plus difficile à expliquer parce qu'elle concerne les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques ont une déformation professionnelle. Ils se croient toujours innocents. On ne doit pas dire a priori « je suis supérieur », mais montrer le moment venu qu'on est à part. Vous le sentez, n'est-ce pas? Tout ça, c'est l'énergie de la survie. La quatrième règle. Bon, je dois avouer que dans celle-ci, le bon Dieu est présent. Mais on ne peut pas l'exclure de la vie. Ce n'est pas que les catholiques qui disent ça, les protestants aussi. Le bon Dieu est quand même présent dans la vie. Il n'y a que les communistes qui ont essayé de l'exclure de la vie des gens, mais ils n'ont pas réussi. Donc, la quatrième règle. Pour celui qui a quelque chose à quoi s'accrocher, la souffrance est plus facile à supporter. Nous, les croyants, nous pouvions nous accrocher au bon Dieu. Nous pensions même que lui aussi voulait notre survie. Et ça, c'est une source de force incroyable.
У нас было самое трудное время ни внутри, ни быт там.
Ce qui était le plus dur, ce n'était pas les conditions de vie, c'était très dur moralement.
Такие, которые попали в лагерях, вот такие молодые,
surtout
молодые
pour
мужчины,
des jeunes,
которые вот оставили
des jeunes
молодых жен,
qui étaient tout juste mariés et qui avaient laissé derrière leur femme.
И узнавали, что уже жены.
Et puis une fois dans le camp, ils apprenaient que leur femme les avait abandonnés, que leur femme avait divorcé, que leur femme en avait épousé un autre. Il y avait aussi des prêtres parmi nous. Et tous ensemble, nous voulions aider ces gens qui étaient désespérés. Nous avons même écrit un livre de prières. J'ai écrit des prières moi-même, avec ma propre main. La prière, ça a aidé les gens contre tous leurs malheurs. Les musulmans priaient, les juifs priaient, les catholiques priaient, les orthodoxes priaient, mais personne ne jeûnait, personne. On cédait pendant nos fêtes à nous, les fêtes catholiques. Les orthodoxes nous aidaient. Pendant leurs fêtes à eux, c'est nous qui travaillons à leur place.
Евреями, все дружили, все дружили. Я могу даже рассказать много-много историй, красивых историй, когда мне помогли, мне там, допустим, мне операцию делал белорус профессор ангина.
J'ai été sauvé moi-même par un professeur de médecine qui était biélorusse et qui m'a opéré des amygdales. Il y avait des Géorgiens, il y avait vraiment de toutes les gens de toutes les nationalités. Et pendant l'insurrection, c'était un véritable conte de fées. Tout le monde cédait, tout le monde voulait sauver son prochain. C'était un vrai communisme, ou une vraie communauté, si vous préférez. Question. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus en détail de votre organisation clandestine? Il y avait parmi nous ceux qui étaient éduqués, ceux qui avaient beaucoup de force de caractère, et ils sont devenus nos dirigeants. Eh bien, il y en avait beaucoup qui nous éduquaient aussi, qui nous disaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Le camp, c'était une école. Il y avait des professeurs parmi les détenus.
Наблюдали
Il y en avait qui veillaient à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre les détenus. Par exemple, à cause de la distribution du pain, tout le monde surveillait la bonne distribution. On veillait aussi sur la cuisine pour que chacun ait sa portion. Bien sûr, il y a eu des tentatives de tricher par-ci et par-là. Mais les seules bagarres, c'était contre les droits communs. On se battait avec des voleurs, on se battait avec des capots, on se battait avec toute la pègre, quoi. Seule l'administration ne savait pas. On savait exactement qui dirigeait les Russes, qui dirigeait les Ukrainiens, etc. Chacun savait ce qu'il fallait faire. Il y avait beaucoup de militaires, d'anciens militaires parmi nous. Il suffisait de donner un signal et tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Je peux vous dire que même dans le monde extérieur, dehors, il y avait plus de crimes que dedans.
L'arrivée massive des prisonniers baltes au goulag favorise la réorganisation de leur réseau. Antanas et ses amis les partisans sont alors surveillés par des codétenus devenus informateurs. Ces informateurs sont les premières cibles de la rébellion du camp. Mais à la mort de Staline, le fait que l'amnistie des condamnés exclut les prisonniers politiques va renforcer la détermination des détenus des camps de travail. Après les grandes grèves de Vorkuta et de Norilsk, c'est à Kengir au Kazakhstan que la révolte prend toute son ampleur.
En 1954, c'était à Steplag, l'insurrection la plus importante a éclaté, c'était la fameuse, la célèbre insurrection de Kengiz. C'était tout près de Jeskazgan, à côté se trouvaient les mines de Kengir. Pour ce qui est de cette insurrection, tout ce que je sais à coup sûr, c'est que c'était l'insurrection la plus importante. Il a fallu lancer des chars pour l'écraser. Il y avait 3 zones d'hommes et 1 zone de femmes qui se sont mises ensemble. Pendant cette insurrection, mon frère a été tué. Il avait 23 ans, tout juste 23 ans. Et il a été tué le jour de son anniversaire. Il a été tué par une rafale de mitrailleuse, parce qu'ils ont tiré à la mitrailleuse lourde sur les détenus, dans le tas. C'est très pénible de parler de cette insurrection, mais c'est néanmoins nécessaire. Le monde a appris l'histoire de cette insurrection grâce à Solzhenitsyn. Il l'a décrit dans l'archipel du Goulag, 40 jours de Kengir. Lui-même, il n'a pas participé à cette insurrection, donc il n'était pas témoin indirect. Il a fallu réunir les documents, les témoignages. Je le fais jusqu'à maintenant, et si Dieu veut me donner encore quelques années de vie, je vais les employer à rencontrer tous les témoins.
L'amour des hommes, la part de Dieu est le deuxième épisode de notre série documentaire « Nos années Goulag » avec les témoignages de Mia Yogias, Placide Lovson et Antana Seikalis. Conseiller historique, Marta Craveri. Une série coproduite par France Culture, RFI et le CNRS à partir des archives sonores du Goulag. Les archives sonores du Goulag sont le fruit d'une enquête sans précédent menée par une équipe de 13 chercheurs de 8 nationalités différentes et coordonnée par le CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens, en collaboration avec Radio France Internationale. Notre équipe a recueilli plus de 160 témoignages en Europe centrale et orientale, également au Kazakhstan et en Sibérie, entre 2008 et 2010. Attachée d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Valérie Nivelon, mixé par Olivier Dupré, réalisé par Christine Robert et adapté par Cécile Pompeani pour RFI. Nos années Goulag sont à retrouver sur les pages RFI et Facebook de La Marche du Monde. Téléchargez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.